On va le rejoindre à l'autre bout de la planète. GSD, salut!
Salut, GS!
Salut, boys, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Yes, numéro un.
GS, j'ai une question pour toi, parce que le Canadien se retrouve dans une situation, puis ça, c'est le fun, on a un peu l'embarras du choix. Qui va réussir à percer la formation et se retrouver un peu avec le poste 12e attaquant? Mais en réalité, c'est qui a le profil pour être capable d'amener du papier sablé et non des attitudes offensives sur le quatrième trio? Elle est là, la question. Qui est capable de bien fitter sur cette ligne-là?
Ben écoute, c'est une bonne question. Je pense qu'elle a été négligée depuis le début de l'été, qui s'est amené au camp d'entraînement. C'était beaucoup par rapport au power play, c'était beaucoup par rapport au deuxième centre, mais je pense que c'est important la quatrième ligne. Si tu regardes les équipes qui s'est rendues en finale à la Coupe Stanley dans les années, tu regardes les Panthers, tu regardes l'Avalanche, tu regardes Dallas, je trouve que c'est tous des gros clubs qui ont une bonne quatrième ligne, qui amènent du speed, de la vitesse, puis sont physiques. Puis on l'a vu, je pense, durant les séries avec le Canadien, il manquait cette portion-là de l'équipe qu'on n'avait pas contre Washington. Puis quand tu regardes les joueurs présentement, je trouve que c'est tout un peu le même type de joueur. Tu as Vileno, t'as Blais, j'ai entendu dire qu'il pouvait jouer un peu physique, mais après ça, t'as Kapanen. Je trouve que c'est tous des gars un peu qui vont remplir des trous à droite et à gauche, mais d'avoir des joueurs qui sont étiquetés quatrième ligne, qui amènent la robustesse, qui savent quoi faire à tous les soirs. Parce que des fois, là, tu te fais mettre dans le line-up, un gars comme Vileno, par exemple, t'essaies-tu d'amener de l'offensive, mais là, t'es sur la quatrième ligne, fait que t'essaies de mélanger du physique. Puis là, tu te perds un peu dans cette game-là où que tu veux plaire au coach, tu veux faire ta job, mais au final, c'est pas vraiment ça ta job. Fait que je trouve que c'est pas optimal pour le joueur, puis c'est pas optimal pour le Canadien non plus, parce que là, tu te retrouves avec comme un entre-deux où que ben là, tu sais pas comment jouer avec ça. Puis je pense que c'est ça qui manque présentement. Un gars qui pourrait étiqueter quatrième ligne, que toi et soir, tu sais à quoi t'attendre. Il est au fond Léon, puis let's go. Puis je pense que c'est ça qui manque. Puis le frère Jacquet, je pense que ça pourrait être une très belle addition pour le Canadien.
Je suis curieux de faire un tour de table, parce que un peu plus tôt cette semaine, Samuel Blais s'est exprimé devant les médias, puis il a dit... Les équipes championnes, c'est des équipes qui frappent.
Ouais.
Parce que ça fait en sorte qu'ils épuisent l'adversaire et après ça, sont capables de passer par-dessus.
Ouais.
Surtout dans une série 4-7.
Grind,
moi, j'ai l'impression que Samuel, il peut remplir ce profil-là, GS.
Ben, je pense que c'est ça qu'il veut faire, hein, qu'il veut apporter dans l'équipe, c'est sûr. Il a gagné la Coupe cette année dans un rôle de même, Samuel Blais.
Ouais. Exact.
Et puis, lui, il est à même de constater comment ça peut fonctionner en séries éliminatoires.
Je suis d'accord, puis tu sais, tu regardes, j'ai vu des séquences de lui dans la Ligue américaine l'an passé, puis tu vois qu'il est capable de sortir l'épaule, puis en plus d'être capable de produire, donc un gars comme ça sur une quatrième ligue, puis je l'ai dit souvent, un Québécois dans le line-up à Montréal, qui sait à quoi faire comme job sur une quatrième ligue, écoute, moi je pense que c'est le meilleur fit qu'on pourrait avoir, puis tu sais qu'il va t'en donner à tous les soirs, qu'il va être le premier sur le forecheck, le premier sur le backcheck, il va bloquer des shots, puis c'est le genre d'énergie-là que je pense que le Canadien a besoin pour venir solidifier leur line-up.
Tu sais, l'année passée, les gars, là, Josh Anderson, il s'est quand même un petit peu oublié. Tu sais, lui, il dit, gars, c'est pas grave. Là. Je serai plus sur un trio offensif ou si on génère de l'attaque, tant mieux si on marque des buts. Mais j'ai un rôle. Je vais tuer les punitions. Je vais donner du momentum à mon club. Je vais revirer la game de bord et tout ça. Ça prend des gars qui ont cette mentalité-là. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'avant. Tu sais, on parle de Joe Vileno et tout ça sur un quatrième trio. Éventuellement, Joe Vileno, là, il aime ça marquer des buts et tout ça. Puis c'est pas le profil pour jouer sur un quatrième trio. Tu comprends? Tu parles de Samuel Blais, là. Tu sais, c'est un grinder. Tout ça. S'il score pas de but, tu fais ta job. C'est pas grave. T'es aussi utile à ton club, qu'est-ce que tu marquais? Okay,
mais je vais te poser une question, Gilbert. Josh Anderson, il y avait encore quand même plusieurs années de contrat devant lui. Quant à la sécurité financière, est-ce que c'est plus facile de dire « Ok, je vais accepter mon rôle, je vais devenir un attaquant plus défensif, plus frappé », tandis que si tu n'as plus de contrat à la fin de l'année, mettre des statistiques sur le tableau, c'est peut-être plus important?
C'est sûr que ça t'a moins de pression parce que tu sais que tu as un contrat, mais en même temps, il faut que t'adoptes ton rôle aussi. Là, tu sais, lui, là, on l'a mis sur un checking line, puis on lui a dit « On va te donner une mission, tu vas suivre les punitions, tout ça, tu n'iras plus sur le power play ». Il aurait pu bouder puis faire s'apitoyer sur son sort, mais ça a été le contraire. Puis c'est des gars de même que tu veux dans ton club. Là.
Qu'est-ce que t'en penses, Gilles?
Ben, c'est absolument ça. Puis tu sais, c'est tellement plus facile en tant que joueur d'arriver à l'aréna puis de pas avoir stressé à performer. Puis je l'ai vécu. C'est dur des fois comme bagage d'arriver à l'aréna puis tu dis, écoute, si je compte pas à soir, ben là, le coach sera pas content ou là, peut-être ça va nuire à ton contrat. Tu te mets à overthinker, mais si t'arrives sur la glace, ton but, c'est juste de travailler, patiner, être physique. c'est pas mal plus facile à faire à tous les soirs. T'sais, physiquement, oui, c'est dur, mais je pense mentalement, d'être capable d'arriver à tous les soirs puis d'avoir juste une mission, ça rend la chose beaucoup plus facile. Je pense que Josh, tu prends bien fait l'année passée.
Est-ce que ça pourrait aussi avoir, parce que là, la façon qu'on s'exprime depuis tantôt, c'est comme si Josh Anderson va être un peu le seul à avoir ces responsabilités-là de déranger. Pourrait-il être épaulé par les défenseurs? Parce qu'en arrière, hier, Showball a une grosse mise en échec, quand même bien fait. Effacé, mais effacé dans le bon sens.
5 mises en échec dans le match.
Exact. Ouais. Jack Guy, il est capable, lui aussi, de faire des bonnes mises en échec.
Lui, il faut que je joue de la même façon que Showball a joué hier.
Combien de fois Caden Goulet, l'année dernière, a donné le ton avec un bon coup d'épaule? Est-ce que le support à Josh Anderson pourrait venir par la brigade défensive, GS?
Ben absolument. Je pense que Jack Guy, écoute... J'ai vu quelques clips durant le camp, j'ai entendu parler, puis ça a l'air qu'il fait super bien ça. Donc, d'amener ce gars-là dans le line-up à tous les soirs, d'amener stabiliser la défensive, puis si t'en as un low bar qui court à droite et à gauche, tu peux avoir lui qui est là pour aller déranger. Puis c'est ça qui nous a manqué durant les playoffs l'année passée. Puis t'as vu tout de suite quand il est rentré dans le line-up, c'est sûr que c'est pas évident de rentrer comme ça en plein milieu des séries, mais qu'est-ce qu'il peut apporter le Canadien? Je pense que ça serait extraordinaire. Puis tu sais, maintenant, c'est pas tout le temps à Anderson de faire la job. Puis si au moins t'as lui en arrière, t'en as en avant, t'en as en arrière qui vont pouvoir amener une stabilité puis amener de la robustesse dans l'alignement.
Jess, je veux t'amener sur un cas comme Owen Beck, par exemple, qui là lutte pour un poste, puis on se destine un rôle de soutien dans la Ligue nationale de par son style de jeu. C'est un gars qui a peut-être pas des habiletés offensives naturelles, marquer des buts, ça va venir probablement au pic et à l'appel pour lui dans la Ligue nationale. Mais si, advenant le cas où il ne fait pas l'équipe, on va le retourner à Laval, puis il va probablement jouer sur un premier trio. Je sais que tu as vécu cette réalité-là d'être sur la bulle entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine, de pas avoir forcément le même rôle quand tu es dans la Ligue nationale, parce que on te place sur une quatrième ligne, mais quand on te descend en bas, tu joues dans le top 6 puis sur l'avantage numérique. À quel point pour ces gars-là, c'est dur cet ajustement-là entre les deux niveaux?
Ben c'est vraiment dur, puis la vérité c'est que j'ai dû adapter mon jeu d'un certain sens à toutes les fois, parce que comme tu dis, quand je suis dans la Ligue américaine, j'ai un rôle un peu plus offensif, je joue pas nécessairement sur le piqué, je suis en power play, puis t'arrives en haut, ben j'étais pas assez bon pour être sur les top 2, tu te ramasses sur une 3, sur une 4, puis comme je disais tantôt, ben là, tu dis, ben là, faut que j'amène l'énergie de la quatrième ligne. Fait je me mettais à patiner comme un malade, je frappais, mais c'était pas nécessairement ma game, fait des fois, c'est ça qui est dur d'être entre les deux. Ben exactement. Puis c'est dur de se positionner comme ça, d'arriver à l'aréna. Fait que je comprends que ces joueurs-là, c'est pas évident, mais ça fait partie de la réalité des choses. Puis ta manière de monter, c'est de franchir les échelons, passer par là, puis éventuellement, ben, tu sais, c'est plate, mais faut quasiment t'espérer une blessure pour prendre l'opportunité d'un autre. Puis c'est de même des fois que t'as une chance, puis il faut que tu saisisses quand ça arrive, parce que ça vient vite, puis ton tour passe vite, puis t'as des nouveaux gars chaque année, donc c'est dur d'être pris entre les deux, mais écoute, ça fait partie de la réalité du hockey aujourd'hui.
Si t'es capable de modifier, de changer ton rôle, t'sais, tant mieux pour toi, parce que ça va te donner des opportunités, là. T'sais, tu joues sur un trio, tu l'as dit, tu joues sur un trio offensif dans la Ligue américaine, t'arrives dans la Ligue nationale, mais il n'y a pas de place sur le top 6, fait que je m'en vais dans le bottom 6, puis là, j'ai un rôle complètement différent. C'est ceux qui sont capables de s'adapter comme ça, ouais. Là. Il y a des places,
exact. C'est un atout que tu peux rajouter aussi à ton CV par rapport, tu sais, durant ta carrière. Tu sais, je pense que c'est toujours bon d'être capable de se développer en tant que joueur, puis t'as pas juste arrêté à offensivement puis tes skills sur le power play, mais d'aller chercher des atouts comme un peu plus physique. Puis je pense que de la grit dans ta game, c'est tout le temps important. Mm-hmm. Puis tu le vois aujourd'hui, surtout pour les playoffs, si t'as ça dans ta game. Je pense que ça peut te permettre d'avoir une belle carrière.
Mais je pense quand même que la Ligue nationale, les organisations font fausse route. Lorsqu'on a, mettons, un blessé sur le quatrième trio, et là, on va chercher notre meilleur attaquant dans la Ligue américaine et on l'inscrit dans cette position-là.
Tu te dénatures complètement.
Le joueur va pas être dans une situation où est-ce qu'il va pouvoir, déjà que la pression est là, déjà que le stress est là, le joueur ne sera pas en mesure de briller.
Mais il y a une méritocratie aussi. Quand ton gars produit en bas puis que c'est ton fer de lance de l'offensive, il mérite son rappel.
Je comprends.
T'sais, les équipes souvent sont des deux côtés. Tu amènes un jeune, OK, d'accord, mais des fois, c'est le vétéran qui t'en donne le plus puis que tu veux rappeler.
Je comprends ça, sauf que des fois, l'organisation, je pense que leur intérêt à prévoir ce joueur-là dans mon organigramme, il va être où tantôt?
Ouais.
Comment je devrais le développer? Un bon exemple de ça, c'est Logan Mailloux l'année dernière. On le savait que le Canadien, l'avantage numérique, c'était peu probable pour Logan Mailloux. Bon, on a essayé de l'envoyer dans une autre facette, qu'il devienne un défenseur plus complet, le faire travailler autre chose. Je pense que ça vaut la peine quand même que les équipes se penchent un peu sur le rôle qu'on va vouloir donner aux joueurs pour que quand ils graduent dans la Ligue nationale de hockey, ils ne soient pas comme un chevreuil sur l'autoroute, là.
Moi, je suis d'accord avec ça complètement parce que c'est dur là, d'arriver à toutes les fois puis de jouer au yo-yo. Ben là, je suis offensif, je suis pas défensif, puis tu es défensif. Fait que ça vient avec le stress à chaque fois de. Tu sais, quand je me faisais rappeler, moi, je me souviens, là, c'est. Écoute, c'est tough, là. T'as la pression de peut-être. T'as une game, t'as deux games. Si tu fais pas la job, oups, t'es reparti en bas. Fait que c'est tout le temps ça de. C'est dur, là, d'être rappelé. Puis la vérité, c'est que t'as pas une vraie chance comme les choix de première ronde où que tu vas avoir 10, 20, 30 games. Des fois, nous autres, c'était une, deux games. Ah, finalement, ouais, on va en prendre un autre puis on va faire le switch.
Exact. Mais au moins, je trouve, puis là, écoute, je sais qu'on est très axé sur le Canadien de Montréal, puis peut-être que si j'étais à Washington, j'aurais les mêmes éloges en endroit de Spencer Carberry. Mais je trouve que Martin Saint-Louis prend le temps avec chaque joueur. Puis lorsqu'il s'exprime en point de presse, on a l'impression vraiment qu'il y a une relation spéciale avec chacun de ses joueurs. Puis je le répète, là, probablement que c'est la même chose dans tous les marchés. Mais je trouve quand même que Saint-Louis, il est bon pour appuyer sur les bons boutons. Puis après ça, on a l'impression que ses joueurs, ils veulent jouer pour lui, JS.
Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis c'est quelque chose que, au courant de ma carrière, j'ai vu les deux types de coachs. Puis les moments où j'ai eu le plus de succès, c'est quand j'avais une connexion avec mon entraîneur. Puis je trouve qu'avec les années, ça s'en vient de mieux en mieux. Mais d'avoir une connexion avec ton coach, que tu es capable de rentrer dans le bureau, d'y parler, je ne dis pas d'être son meilleur ami, mais tu es capable de t'asseoir et de
sentir à l'aise avec
t'exprimer.
Lui.
Ouais. Exactement. Puis de sentir, d'être vulnérable aussi. Tu sais, c'est bien beau le hockey, la toughness et tout ça, mais au final, on risque des êtres humains. Puis c'est important d'être capable de vider ton sac, d'y parler à ton coach parce qu'au final, tu travailles avec lui. Fait que si il a le meilleur de toi puis tu as le meilleur de lui, ben c'est juste mieux pour l'équipe. Puis je trouve que des fois, c'est ça qui manquait de la relation entre les coachs puis les joueurs. Puis c'est ce que j'aime de Martin présentement, c'est la relation qu'il semble créer avec les joueurs. Je trouve que c'est phénoménal parce que t'as le goût d'aller à l'aréna pour lui. Il te fait bien le sentir, ça te permet d'avoir plus confiance. Puis le swagger quand t'arrives à l'aréna, quand tu sais que le coach est derrière toi, qui te donne toute la confiance, qui te donne tout l'amour que t'as besoin pour être à ton meilleur, je pense que c'est la chose la plus importante puis la plus belle qu'un joueur peut avoir, d'avoir cette confiance-là de ton entraîneur. Là.
Jean-Sébastien, merci d'avoir pris du temps pour nous parler, puis on se reparle la semaine prochaine.
Salut, JS.
Merci les boys.